Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Je ne savais pas que j'irais dans cette cage. Donc quand ils m'ont mis là, je me suis senti mal. Mais j'ai réalisé que sans cela, jamais je ne serais sevré de l'héroïne.
Dans une cage, vous avez bien entendu, pour les toxicomanes de Birmanie, la Birmanie qui est aussi producteur d'amphétamines, d'opium, la vie des toxicos là-bas, croyez-moi. C'est terrible sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu en Allemagne, à New York et aux États-Unis. Le Monde selon Trump et Grégory Phillips, justement, avec un président qui décide plus vite que son ombre. Et on verra sur quoi. Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four, avec des manifestations à Khartoum, au Soudan. Ça ressemble à l'Algérie, nous dira Jean-Marc, mais évidemment, c'est très loin aussi d'être la même chose. En attendant, allons en Europe avec le hashtag Votre Europe sur France Inter. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Votre Europe, donc un hashtag lancé par France Inter aujourd'hui, France Inter et Radio France. Un moyen surtout de retrouver facilement pour vous tout ce qui est dit, tout ce que vous allez entendre au sujet de l'Europe en cette période électorale. Le 18-20, vous le savez, a déjà voyagé ces dernières semaines, il continuera à le faire dès la semaine prochaine. Mais tout ce qu'on voit autour de nous prouve bien combien en parler est important, même si objectivement c'est pas toujours vendeur. Bonsoir Robert Franck.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Europe, d'histoire internationale et d'Europe. Être ou ne pas être européen, les Britanniques et l'Europe du XVIIe siècle au Brexit, c'est ce que vous publiez, c'est paru chez Belin. Je disais Robert Franck, même si c'est pas vendeur, parce que regardez quand même, le fameux débat sur France 2 récemment, quatrième en termes d'audience. Quatrième, c'est pas beaucoup, avec par ailleurs une compétition qui est beaucoup plus franco-française que probablement on le voudrait. Autour de nous, il y a un Salvini qui veut rassembler les eurosceptiques, le Brexit, vous le savez, dont on parle beaucoup. Un Philippe de Villiers aussi qui écrit un livre qui est truffé d'erreurs, mais qui est numéro 2 des ventes aujourd'hui dans les essais. Ça craque dans tous les sens, non ? Honnêtement.
Ça va pas très bien, c'est vrai. L'Europe va mal, les sociétés européennes vont mal. Il y a une Europe qui essaye de protéger de la mondialisation et qui joue le jeu de la mondialisation, parce que la mondialisation a des avantages, mais qui essaie de la protéger pas suffisamment. Donc il y a des perdants de la mondialisation et manifestation de gilets jaunes en France. Ceux qui ont voté pour le Brexit il y a 2 ans, c'est un peu les mêmes revendications qu'ils avaient. Voilà, les choses vont mal. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on parle Europe, il y a tellement de choses différentes et on mêle un petit peu tout. Et c'est vrai qu'un débat où vous avez j'aurais une douzaine de personnes, c'est ça, à l'écran, c'est pas très 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 vendeur.
Non, vous avez 27 autour de la table, c'est compliqué aussi.
C'est compliqué aussi, mais voilà. Mais justement, si l'Europe va mal, c'est les sociétés vont mal. Moi, ce qui me frappe avec la question du Brexit, c'est que l'Union européenne va plutôt bien. Les 27 sont unis. Les 27 sont unis et sont même plutôt fermes. On verra bien jusqu'à la fin s'ils cèdent ou non au chantage de Madame May, et la crise est vraiment britannique.
Theresa May comptait sur l'inverse, d'ailleurs. Probablement, on s'était dit, ça va être bien, comme ça, ils vont tous se disputer les uns les autres, et c'est comme ça qu'on sortira notre épingle du jeu. Elle a peut-être très mal anticipé là-dessus.
Mal anticipé, et les populistes ont mal anticipé. Moi, il y a une chose que je vois, et qu'on ne dit pas assez, c'est que les populistes ne sont pas solidaires entre eux. Il n'y a pas d'unité entre les populistes. Les populistes polonais, les populistes hongrois, qui sont au pouvoir, n'ont pas soutenu le Brexit. Ils sont derrière Michel Barnier. La Pologne ne veut pas sortir de l'Union européenne. Populiste compris. La Hongrie ne veut pas sortir de l'Union européenne. Hongrois compris.
Et Salvini qui essaye en ce moment de regrouper les eurosceptiques, les populistes, a beaucoup de mal à le faire.
Il a du mal à le faire. L'extrême droite n'arrive pas. Comment voulez-vous que les populistes, parce que le thème du populisme c'est quand même un certain nationalisme, chacun pour soi, comment voulez-vous que les tenants du chacun pour soi puissent s'entendre autour ? Sauf pour casser l'Europe.
Mais c'est intéressant parce que du coup ce que vous dites c'est que, parce que tout revient toujours à un problème d'identité au fond. Ce que ça veut dire c'est que les Brexiteurs notamment ont mal jaugé au fond qu'il y avait plusieurs identités, identités britanniques,
c'est
en fait, et y compris l'identité européenne parmi les Britanniques.
Paradoxe. D'une façon générale, les populistes parlent d'identité, mais ils comprennent rien à l'identité. Pourquoi ils comprennent rien? Parce qu'ils sont persuadés qu'on n'a qu'une seule identité. Et c'est vrai que chacun a une identité plus forte que les autres. Il ne fait aucun doute que l'identité nationale chacun d'entre nous est plus forte que les autres identités, y compris. Mais les autres identités existent et précisément ils n'ont pas compris. Et là, le Brexit le montre, c'est un véritable laboratoire, que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'un référendum où on doit voter par oui ou par non, ou par remain ou leave, c'est impossible de rendre compte de ses propres identités. Et si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé, c'est la manifestation de samedi, il y a une dizaine de jours. À mes yeux, une manifestation historique, vous avez trouvé ça paradoxal, dans la mesure où on n'a jamais vu, un million de personnes avec une marée de drapeaux bleus. Jamais il y a eu un attachement aussi fort à l'Europe. Ce qui veut dire quoi? C'est que l'identité européenne de ceux qui manifestaient est sûrement moins forte que l'identité nationale. Mais au moment où ils risquent de la perdre, eh bien, elle ressurgit avec force. C'est pour cette raison que les Polonais, populistes compris, ne sortent pas de l'Union européenne. Ça, les populistes l'ont compris. Et si vous voulez, la campagne électorale peut être justement une occasion pour montrer les contradictions des populistes. Puisqu'ils veulent, avec leur programme, casser l'Europe, on a envie de leur dire, mais allez jusqu'au bout de leur logique et faites la même chose que les Britanniques. Pourquoi ne le faites-vous pas? Vous n'êtes pas honnête avec ce que vous dites. Vous n'êtes pas conséquent avec ce que vous dites. Mais, et ça, je crois qu'on ne le dit pas assez.
Mais honnêtement, Robert Funk, justement, puisque vous parlez d'identité, est-ce que c'est pas ça quand même au fond qu'on a raté au fil du temps? Si je vous demandais là de définir l'identité européenne, est-ce que vous sauriez le faire, par exemple? Ou est-ce que c'est un vrai piège au fond? Et est-ce que c'est ça qu'on a raté, ce fil-là, on n'a pas réussi à le tirer?
Je crois qu'on l'a raté, effectivement. Il faut pas avoir peur de parler d'identité, à condition de parler d'identité au pluriel. Il faut pas avoir une vision, je dirais, identitariste de l'identité. Il faut pas avoir une vision sectaire ou exclusiviste, si vous voulez. À partir du moment où on essaye de définir l'identité européenne, c'est un sentiment d'appartenance à une culture. C'est un sentiment d'appartenance à des valeurs. La déclaration de l'identité sur l'identité européenne de 1973 disait ça, mais elle ajoutait en plus, c'est aussi une vision d'avenir. C'est pas seulement les valeurs spirituelles ou religieuses, ou pardon, les valeurs morales du passé.
Intéressant lapsus.
Lapsus intéressant, parce que précisément, un débat là-dessus. C'est pas seulement un débat sur le passé, l'identité européenne, c'est aussi une communauté de destin. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et ça, on le dit pas assez. Et précisément, à partir du moment où il y a débat, on n'est pas forcément d'accord sur l'Europe que l'on veut. Mais beaucoup sont malgré tout d'accord pour le cadre européen. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord en France sur telle politique française qu'on est contre la France.
Mais en fait, on se trompe. En fait, on parle d'Europe alors qu'en fait, c'est d'Union européenne. C'est plutôt l'Europe va bien, l'Union européenne va mal. Au fond, c'est là-dessus qu'on fait des
confusions. Moi, je pense que les sociétés européennes qui vont mal. Je dis pas que l'Union européenne va bien. Elle va pas trop mal dans la mesure où elle est unie. Et surtout, ce qu'on ne voit pas, c'est ce contre quoi. Ce qu'elle apporte. On voit à juste titre ce qui manque. Précisément. Mais il faut peut-être que les uns et les autres se battent pour ce qui manque, soit pour une politique de gauche, soit pour une politique de droite, ou une politique du centre. Mais si on ne voit que ce qui manque, il faut se battre pour ça. On ne voit pas du coup ce qui existe. Et quand on voit ce qui existe et qu'on risque de le perdre, on a effectivement une résurgence d'identité européenne comme ça passe en Grande-Bretagne. Ça ne veut pas dire que le Brexit ne se fera pas. Ça ne veut pas dire que s'il y a un second référendum, que les partisans du Remain vont gagner. Mais ça veut dire que c'est plus compliqué qu'on le croit.
C'est marrant parce que tous les spécialistes comme vous continuent à dire si il y a un autre référendum, ça veut dire que cette option n'a toujours pas été tranchée, certainement pas, mais certainement pas exclue en tout cas.
Mais rien n'est exclu, vous savez pourquoi? Dans ce livre, j'essaie de montrer que depuis 3 siècles, les Britanniques font du yo-yo.
Ouais, absolument.
Hein, et vous du stop and go. Donc je veux dire, quelle que soit la décision prise dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques temps après, il y aura un autre changement de cap.
Et alors, c'est ce que vous dites, effectivement, vous parlez des cycles, à un moment, et c'est quand même fort intéressant, vous dites, au fond, pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas des cycles, mais avec les Anglais comme avec d'autres, est-ce qu'on a un peu l'impression aussi, et c'est ça qui rend les décisions si compliquées, finalement, que maintenant qu'on est alors 28 ou 27, et il faut qu'on reste à 27, il faut qu'on bouge pas comme ça, il faut que les choses fonctionnent exactement comme ça, il faut surtout qu'il n'y ait pas d'aspérité, au fond, et qu'on avance tous dans le même wagon. Pourquoi pas non, au fond, pourquoi pas entrer, sortir, réfléchir, d'autres moments. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un cycle, un autre est en train de se mettre en place? Est-ce que c'est si grave?
Il peut y avoir d'autres cycles, c'est peut-être pas si grave. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui aient envie de sortir. Là. Je veux dire, le Brexit ne donne pas le bon exemple. Hein. Je crois qu'il faut bien prendre la métaphore de Pascal Lamy que je trouve géniale. L'Union Européenne, c'est une omelette. Hein. Oui, si vous voulez sortir de l'omelette avec vos œufs d'origine, bonjour.
C'est ça.
Donc là, je crois que les gens vont être vaccinés. En revanche, là, vous avez raison, c'est qu'il peut y avoir des Europes à plusieurs vitesses.
C'est ce que j'allais dire, en fait. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, sortir, c'est extrêmement compliqué, mais l'idée qu'on doit toujours être une espèce de bloc monolithique et uni, là-dessus, quelle importance si on ne l'est pas au fond?
Moi, je pense que c'est peut-être une des conséquences possibles du Brexit, qui se fasse ou non d'ailleurs, c'est précisément une Europe à plusieurs vitesses, où il y aura peut-être donc des plusieurs États qui voudront aller plus loin dans la politique monétaire, justement, il y a déjà l'euro, plus loin dans la politique de sécurité européenne, et je crois qu'il faut pas que ce soit un tabou. Et ça, ce tabou qui a existé à un certain moment risque de tomber.
Est-ce que l'Europe serait plus vendeuse aux yeux des gens si elle était plus transnationale aujourd'hui? Regardez par exemple, il y avait une proposition d'ailleurs qui venait d'Emmanuel Macron, mais peu importe, sur des listes transnationales aux élections. S'il y avait cet esprit-là lors d'élections européennes, est-ce que ce serait selon vous plus confus pour les gens ou plus vendeur, ou ça montrerait réellement comment les échanges se font entre nous?
Ça serait plus clair, je vais vous dire pourquoi. Là, on est en train de réfléchir à toutes ces formations françaises qui se présentent aux européennes. Et on est en train de comparer, à juste titre, les sondages. Voilà, le mouvement Renaissance, République en marche, c'est 23%. Rassemblement national, c'est 21%. C'est très bien. Mais sa valeur de sondage, là, mais même une fois le résultat obtenu, ça ne sera qu'un sondage. La question qu'on ne pose pas à chacun
d'entre eux, c'est qu'est-ce que vous allez faire au Parlement ? Et la traduction au Parlement ?
Dans quel groupe allez-vous ? Parce que on ne vote pas pour un groupe national, on vote pour un groupe européen, et on ne sait pas toujours dans quel groupe européen, où les gens En Marche, dans quel groupe vont-ils aller ? L'extrême droite, dans quel groupe va-t-elle aller, puisque l'Union de l'extrême droite n'est pas là ? Est-ce que vous allez chez Orban ou pas ? Et le groupe socialiste et la place publique, c'est ça ?
Ouais.
Est-ce qu'ils vont tous aller dans le même groupe ? C'est pas sûr. Donc vous voyez, l'électeur a envie de savoir où ils vont aller, parce que au fond, ils votent pour un Parlement européen et non pas pour le Parlement national. Donc si vous voulez, pour revenir à votre question, si les partis étaient transnationaux d'emblée, ça serait plus net, parce que le transnational viendra après, puisque eux vont rentrer dans un groupe transnational et on ne sait pas toujours où ils vont. Donc il faut absolument leur poser la question à tous. Où allez-vous au Parlement européen ? Le citoyen électeur veut le savoir.
Et en même temps, on en a parlé ici même juste avant ce grand débat, Robert Franck, si on descendait dans la rue maintenant et qu'on demandait aux gens « Est-ce que vous pouvez me citer au moins deux groupes au Parlement européen ?» Pensez-vous réellement que les gens seraient capables de les citer, de les nommer ?
J'ai peur que non, mais ça, il faudrait le dire. De même, il y a les deux groupes principaux en groupe, c'est le Parti populaire européen qui est la droite libérale, démocrate chrétien, droite libérale, etc. Il faudrait poser la question aux républicains qui vont aller peut-être dans ce groupe. Est-ce que vous même politique que le PPE, il y a des différences. Vous voyez. De l'autre côté, c'est le PSE, le Parti Socialiste Européen. Qui va aller dans ce Parti Socialiste Européen une fois élu ? Il faudra poser la question.
Je crois que c'est Martin Schulz qui disait ça il y a peut-être un an ou deux de ça. Robert Franck qui disait l'Europe est une promesse qui n'a pas été tenue. En quoi vous diriez que, quelles sont selon vous les promesses qui ont été tenues, celles qui ne l'ont pas été, honnêtement, aujourd'hui ?
Je crois que si vous voulez, prenons le cas de la France. Je suis en contradiction avec moi-même, je dis qu'il ne faut pas regarder les choses d'une façon trop nationale et je le fais. Reportons-nous au référendum de 1992. Et le oui a été un petit oui, mais il a été un oui quand même. Et beaucoup
d'électeurs. C'est Maastricht.
Beaucoup d'électeurs de gauche ont voté un peu à reculons, en se disant bon, voilà, si on écoute ce que dit François Mitterrand, là, l'Europe est très libérale dans ce traité de Maastricht, mais l'Europe sociale va venir. Et elle n'est pas venue. Donc l'Europe ne marche pas sur ses deux jambes. Et 2005, c'est un peu le retour du refoulé. C'est-à-dire, c'est effectivement à gauche que ça s'est passé. Hein, puisque ce sont les électeurs de gauche qui avaient voté oui en 92, qui ont voté non en 2005, qui ont fait que le référendum a été refusé. Et donc, c'est intéressant ce que dit Martin Schulz, parce qu'il est social-démocrate allemand. Précisément, il y a, je crois, un rééquilibrage à faire. Et de ce point de vue, c'est vrai qu'on a deux partis dominants au Parlement européen qui reflètent bien les choses, mais qui sont souvent en coalition, et qui empêchent un peu cette alternance qui souvent est très bénéfique quand il y a une alternance de droite. Avec une politique plus libérale, puis une alternance de gauche, plus sociale. On n'a pas ça à l'Europe. Et du même coup, si vous voulez, les gens ne se retrouvent pas et il n'y a pas de quoi rêver, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, il faut absolument, d'une manière ou d'une autre, trouver de quoi faire rêver les citoyens par rapport à l'Europe.
De quoi faire rêver, comme vous dites. Ça veut dire qu'on sait faire l'Europe économique, on le sait depuis un bout de temps, même avant qu'elle s'appelle comme ça, au fond. On ne sait pas faire l'Europe politique. On essaye de faire une Europe de la défense, mais il y a peu de chances, pour l'instant en tout cas, qu'on arrive à faire une Europe de la défense. Au fond, dès qu'on sort de la pure sphère économique, on est perdu, nous autres, à 27.
Il y a des progrès, quand même. Il y a des progrès. Et l'Europe de la défense, bon, le bilatéral joue un rôle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Brexit ou pas Brexit, je pense, et j'espère un peu aussi, que le couple franco-britannique va subsister. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne est importante pour la défense. Et ça, elle peut le faire sans être dans l'Union européenne. Et si elle y est, bon, tant mieux. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, parce qu'on est toujours très pessimistes, nous, Français, sur la France, etc. La France a une chance inouïe. Il y a un triangle, France, République fédérale d'Allemagne et Grande-Bretagne, que la Grande-Bretagne soit dans l'Europe ou en dehors. Il y a un couple franco-allemand pour diriger les affaires européennes. Ça marche, ça marche pas, mais il existe. Il y a un couple franco-britannique pour la sécurité. Le triangle n'est pas fermé. Il n'y a pas de couple anglo-allemand. En d'autres termes, la France est centrale dans ce dispositif. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et je pense que Brexit ou pas, ça restera central parce que d'une façon ou d'une autre, les Britanniques en matière de sécurité resteront là parce qu'ils y ont bien entendu intérêt.
Brexit ou pas, une dernière question, Robert Fang, juste pour revenir à votre livre et pouvoir le citer à nouveau. Vous citez notamment les Écossais qui, eux, n'ont absolument pas demandé à sortir, les Irlandais du Nord qui n'ont absolument pas demandé à sortir. Qu'est-ce qui peut se passer selon vous à ce moment-là? Est-ce que l'éclatement du Royaume-Uni tel qu'on le connaît est réellement, peut être d'actualité ou pas?
C'est ça qui est impensable. Que le parti conservateur, du moins la partie du parti conservateur qui a fait voter pour le Brexit, qui est attaché à la tradition britannique, est en train de s'embarquer peut-être dans une aventure qui risque de disloquer le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est plus désuni que l'Union européenne, parce qu'effectivement les Écossais sont furieux. On leur demande de choisir finalement entre leur identité britannique et leur identité européenne, et c'est un choix même extrêmement difficile et auquel ils sont
acquis. Ils disent nous sommes Écossais et Européens.
Oui, ils sont Écossais, Britanniques et Européens. Mmh. Mais si on leur demande de choisir entre identité britannique et européenne, on ne sait pas ce qui risque de sortir. Donc il y a un risque, c'est pas sûr que le Royaume-Uni se disloque, mais il y a un risque et le Brexit est peut-être à l'origine de ce risque.
C'est une discussion sans fin, mais on est toujours ravis de l'avoir. Robert Fang, Être ou ne pas être européen, publié chez Belin. Merci beaucoup. Cette discussion, merci. Comme d'autres, donc, à partir de maintenant, un hashtag qui s'appelle Votre Europe sur France Inter et surtout Radio France. Et merci à vous.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe en Birmanie. Une Birmanie que vous ne connaissez pas. Une Birmanie importatrice et consommatrice d'amphétamines, d'opium, toxico dans un pays comme ça. Croyez-moi, c'est zéro soin. Sous les radars et Amélie Perrier avec du catch féminin notamment. Le Monde selon Trump, saison 3 avec Grégory Félix. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Avec votre président qui décide plus vite que son ombre, dites-moi, sur des sujets un peu sensibles.
Oui, par exemple sur la reconnaissance d'Israël sur le plateau du Golan, Trump a décrit ce week-end comment il avait pris sa décision. C'était, comment dire, assez rapide.
Allez, on verra ça ensemble plus longuement. Le Monde à l'envers, Jean-Marc Faux, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À Khartoum, Jean-Marc, la police a pris parti pour les manifestants. C'est très intéressant ce qui se passe là-bas.
Oui, comme en Algérie, une révolution semble en marche au Soudan, sauf que tout le monde s'en fiche. On va essayer de comprendre pourquoi.
Allez, à tout à l'heure et à tout de suite. Le tour de la planète continue dans Un jour dans le monde. Il passe par les États-Unis. Portugal de Man, Philippe Steele sur France Inter. I keep my hands on myself. Take out those demons, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? À ce moment-là, Philippe Steele, non, c'est pas un petit rire? Allez, Portugal de Man sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Interventia extra.
Si c'est un petit rire, hein. Ouais. Sous les radars, Amélie Perrier. On commence, Amélie, par un musée très politique en Allemagne.
Le Bauhaus, ce courant artistique architectural, a 100 ans. Et pour l'occasion, donc, un nouveau musée est inauguré à Weimar. Weimar, où est né le Bauhaus. Une révolution dans l'art, c'était en 1919, juste après la défaite allemande de la Première Guerre mondiale. Le Bauhaus naît en même temps et au même endroit que la République de Weimar. Mais les artistes sont chassés, interdits par les nazis dans les années 30. Beaucoup se réfugient aux États-Unis. Et 100 ans plus tard, donc, le directeur des musées de Weimar, Wolfgang Holler, tient à garder cette dimension. Il dit là, Weimar est un lieu tellement politique. Elle joue un rôle central dans l'histoire allemande. Avec notre musée, nous ne voulions pas dire Weimar est une énième ville historique tranquillement tournée sur elle-même. Nous voulions la faire glisser sur un terrain politique. Le Bauhaus, ajoute-t-il là, a une histoire que nous présentons dans le nouveau musée, mais il a aussi une post-histoire, à savoir le national-socialisme dans lequel le Bauhaus a aussi été impliqué. Le bâtiment lui-même raconte ce passé si riche, des parties datent de la République de Weimar, d'autres de l'époque nazie, des bâtiments ont été érigés pendant l'ère communiste. Une fenêtre de ce bâtiment a été positionnée spécialement au dernier étage du musée pour voir le mémorial du camp de concentration de Buchenwald. Des portraits de survivants du camp nazi viennent d'être affichés tout le long du parcours entre la gare de Weimar et le musée. C'est un défi à l'AFD, a expliqué le photographe. L'AFD, c'est l'actuel parti néo-nazi. L'extrême droite est créditée de 20% des voix dans les sondages pour les prochaines élections régionales en Thuringe. Le musée, lui, attend 100 000 visiteurs par an.
New York, Amélie, aussi inaugure son musée où l'artistique n'est pas le seul enjeu.
Et là, il s'appelle The Shed, la remise en anglais. Le lieu a été inauguré ce week-end. L'idée, dans un New York tout aussi riche en musée que Berlin, c'est là de créer un centre artistique, modèle d'ouverture à un large public. 8 étages avec 2 grandes galeries, un labo de création et puis des concerts. Et là, c'est Fantastic Negrito qui se produira demain soir dans le cadre d'un cycle sur la musique noire américaine dirigé par Steve McQueen, le réalisateur de 12 Years a Slave ou Shame. On attend plus tard aussi Björk sur un autre cycle. Mais le lieu se veut surtout... Oui, il y a des énormes concerts dans ce lieu. Le lieu se veut surtout une contre-attaque, en fait, aux critiques virulentes faites au complexe immobilier dans lequel il est installé. The Shed se veut le pouls culturel des Hudson Yards. C'est un programme immobilier très haut de gamme pour clientèle ultra fortuné. Ce genre d'ensemble est aujourd'hui vivement critiqué, tant les prix de l'immobilier se sont envolés à New York et ont poussé les classes moyennes à partir. Alors là, les billets pour les expositions du Shed ne dépasseront pas les 10 dollars par adulte, contre 25 dollars, hein, faut le noter quand même, au MoMA ou dans beaucoup d'autres musées new-yorkais. Et une partie des places de concert, dont notamment le concert de Björk,
seront
aussi
10
à 10 dollars. Il y aura 10% des places qui seront à 10 dollars, ouais. Pour attirer
et ça va partir en 10 secondes.
Exactement.
Allez, on termine avec une autre forme d'art plus musclée cette fois.
Oui, le catch, toujours aux États-Unis. Hier soir, c'était la 35e édition de la WrestleMania, le Super Bowl du catch, la finale du championnat de Ligue 1. Bref, l'événement phare de la discipline diffusée à la télé. Et pour la première fois en 35 ans d'existence, il n'y avait que des catcheuses, que des femmes.
Ronda Rousey up. The power of the queen is unmatched in this matchup. And Ronda. Oh no.
Oh
no.
Rousey's got a double. Double.
Je sais pas si vous comprenez très bien.
Ouais,
elle hurle pas mal. Là, c'est un combat à 3 lutteuses, dont la grande gagnante, l'Irlandaise Becky Lynch. Et ça se passait au stade MetLife du New Jersey, devant plus de 80 000 fans venus de tous les États-Unis et même de l'étranger, nous disent les organisateurs. Et voilà la réaction de Becky Lynch, donc la championne à la sortie du ring.
Anything's possible now, man. Anything.
Tout est possible, mec. Tout est possible. Mec, elle répond au micro d'une journaliste après une édition 100% féminine. On n'est pas une contradiction près.
Non, c'est vrai. Mais c'est pas un peu truqué, ces matchs-là? Non,
c'est la vérité. C'est un peu de spectacle. Ah, c'est de l'art.
D'accord, c'est ça. C'est ce que je disais. Merci beaucoup, Amélie Perrier. Vous revenez demain.
À demain. Peine.
France Inter.
Doha. Harare.
Jérusalem.
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul. Washington.
São Paulo.
Beyrouth. France Inter.
Ce soir, c'est en Birmanie que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. La Birmanie confrontée à un véritable désastre sanitaire, c'est ce que dit l'ONU. Le saviez-vous ? Le pays est désormais le plus gros producteur d'amphétamines au monde et le deuxième producteur d'opium derrière l'Afghanistan. La drogue est exportée dans les rues de Tokyo, en Australie, mais aussi consommée sur place, dans un pays où évidemment très peu de soins existent et où les toxicos sont perçus comme des criminels. Bonsoir Elisa Hunt.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous êtes la correspondante des RFI à Rangoon. Elisa, vous allez nous emmener dans le nord du pays, dans l'état Kachin, qui est situé près de la Chine. La consommation de drogue dans cette région, agitée par un conflit ethnique par ailleurs depuis des décennies, y est extrêmement élevée. Et face à l'inaction du gouvernement, un groupe religieux a essayé de s'attaquer au problème.
Oui, nous sommes ici dans un camp de réhabilitation tenu par Padjasan, une organisation liée à l'église baptiste, une église évangélique très influente dans cette région à majorité chrétienne. Une centaine d'hommes entre 17 et 70 ans sont enfermés dans des bâtiments en bambou, au milieu d'une cour cernée par des hauts murs avec quelques barbelés. Tous sont des anciens consommateurs de drogue. Brand Nai est le responsable du camp.
Ceux qui viennent d'arriver, nous les enfermons ici, dans cette cage. Les trois hommes que vous voyez là, ils ont essayé de s'échapper. Donc, comme punition, ils sont enfermés ici aussi. Tous les six mois, on a environ deux à trois personnes qui veulent s'enfuir. C'est violent. Ils poussent les barbelés ou ils essayent de casser les cadenas. Mais pour nous, c'est notre responsabilité s'ils s'échappent. C'est de notre faute. Alors, on essaie de les récupérer autant que possible.
Les méthodes de l'organisation Padjasan sont critiquées par les ONG et la société civile dans un pays où il y a peu d'alternatives. Être envoyé ici n'est souvent pas un choix et les nouveaux arrivants restent deux semaines enfermés dans une cage avant de pouvoir circuler librement dans le camp. Pour se débarrasser de leur addiction, une seule solution est proposée, des cours sur la Bible toute la journée. À 23 ans, il vient tout juste d'arriver.
C'est mon oncle qui a proposé l'idée à ma famille parce qu'il connaissait les méthodes. Il m'a dit que ça allait prendre 6 mois et qu'après 6 mois de lecture de la Bible, je pourrais surmonter mon addiction.
Est-ce que vous saviez à l'époque que vous seriez enfermé ici ?
Je ne savais pas que j'irais dans cette cage. Donc quand ils m'ont mis là, je me suis senti mal. Mais j'ai réalisé que sans cela, jamais je ne serais sevré de l'héroïne. Ici, une journée ne dure pas 24 heures, mais beaucoup plus. Pendant la journée, je pense beaucoup à mes enfants, je regrette ce que j'ai fait. Être enfermé, c'est pour mon bien.
Le week-end, les pensionnaires du camp peuvent regarder la télévision ou jouer au football dans la cour. Aucun traitement médical ne leur est donné pour le sevrage, car Padjasan considère que l'addiction à la drogue est un problème mental et non physique. Comme le groupe est influent dans l'état Kachin, certains programmes d'aide des ONG se retrouvent donc confrontés à de fortes résistances locales. C'est le cas pour les activités pour diminuer les risques liés à la consommation de drogue, comme les traitements de substitution par méthadone. Soutno coordonne la réduction des risques au sein de l'organisation birmane civile META.
Dans la région, le pouvoir n'est pas aux mains des autorités, mais dans celles de la population, de l'Église. Ici, les programmes de distribution de seringues ou de méthadone sont très controversés, car pour les communautés locales, la méthadone est une drogue comme une autre. Alors pour eux, il ne faut pas en prendre. Et pour les distributions d'aiguilles et de seringues, c'est perçu comme le moyen d'encourager leurs filles et leurs fils à prendre de la drogue.
Pour Pourtant, ces programmes de réduction des risques sont nécessaires. En Birmanie, 30% des consommateurs de drogue utilisant une seringue ont le VIH. Mais dans l'État Kachin, cela concerne un consommateur sur deux. Et la situation est encore plus critique pour l'hépatite C, puisque 70% d'entre eux sont touchés par cette maladie. Des chiffres qui sont particulièrement alarmants dans les mines d'or, de jade ou d'ambre de la région, riches en ressources naturelles et difficiles d'accès pour les organisations. Pozo est un ancien mineur.
On devait rester longtemps dans de l'eau glacée pour creuser. Il faisait très froid et cela demandait beaucoup de force. Alors pour me réchauffer, j'ai commencé à prendre de l'héroïne. Souvent, c'est mon patron qui achetait de la drogue pour tout le monde. À l'époque, je ne savais pas que c'était risqué de partager des seringues. Et c'était très difficile d'en avoir des neuves. Alors une fois que j'en utilisais une, je la lavais avec de l'eau chaude. Et si mes amis me demandaient les seringues, je leur donnais.
Peu d'offres de soins existent dans le pays. Seulement une cinquantaine de centres proposent de la méthadone en Birmanie. Et surtout, les discriminations sont fortes à l'égard des usagers de drogue, ce qui dissuade de demander de l'aide. À cela s'ajoute la peur d'être arrêté, car les autorités appliquent en effet une politique très répressive à l'encontre des petits consommateurs. Avoir par exemple moins de 1 gramme d'héroïne sur soi est puni de 5 à 10 ans de prison. Dans l'État Kachin, 70% des détenus sont donc enfermés pour une affaire de drogue. Un amendement à la loi a bien été voté l'an dernier, mais tarde à se mettre en place. Nong Pan dirige le Drug Advocacy Group, une organisation qui regroupe plusieurs acteurs civils et humanitaires travaillant sur le problème de la drogue.
Selon cet amendement, ceux qui prennent de la drogue ne doivent plus être envoyés en prison, mais doivent suivre un traitement. Sauf que depuis, il devrait y avoir un arrêté qui dit comment concrètement appliquer cette loi. En réalité, si un usager de drogue est simplement un consommateur, ils ne vous arrêteront pas. Mais s'ils vous retrouvent avec un peu de drogue sur vous, vous serez condamné à de la prison. Donc ce n'est pas vraiment un changement à 100%.
L'an dernier, une nouvelle feuille de route a été publiée par le gouvernement. Elle reconnaît l'échec d'une politique uniquement répressive à l'encontre des consommateurs de drogue en Birmanie et que l'addiction est aussi un problème de santé. Des directives qui tardent à se concrétiser selon les associations.
Elisa Hunt pour le reportage en Birmanie. Merci beaucoup.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le Monde selon Trump, saison 3 et Grégory Phillips. Donc Grégory, on sait que l'immigration est un sujet central dans la politique de Donald Trump. Il y a ce projet de mur avec la frontière, il y a les menaces même de fermeture de cette même frontière mexicaine. Et puis, depuis hier soir, il y a aussi le limogeage de la ministre en charge de la sécurité intérieure. Grégory, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que la Maison-Blanche va durcir encore un peu plus sa politique sur l'immigration ?
Alors en tout cas, Kirstjen Nielsen en charge du Homeland Security et donc de l'immigration est fired, pour reprendre une expression chère à Donald Trump, virée. Et selon nos confrères américains de NBC, c'est parce qu'elle refuse de réinstaurer, vous savez, cette politique de séparation des familles de migrants, parents et enfants, lorsqu'ils arrivent à la frontière. Donc oui, volonté de la Maison Blanche de durcir encore un peu plus les lois sur l'immigration. Et écoutez ce que disait Trump il y a 3 jours, vendredi dernier, à la frontière, déplacement dans la ville californienne de Calexico, message adressé directement à ces migrants venus du Mexique, du Salvador ou du Honduras.
Le système déborde. On ne peut plus vous accepter. Les demandes d'asile, tout ce que vous voulez. L'immigration illégale, on ne peut plus vous prendre. Notre pays est plein. Il n'y a plus assez d'espace. L'industrie est au complet. Désolé. Faites demi-tour. C'est comme ça.
Voilà Fabienne, voilà. Le pays est complet, c'est un argument, presque un slogan de campagne pourrait-on dire, hein, qu'on devrait entendre pas mal dans les prochains mois dans la bouche du président américain.
Alors Grégory, demain, élections en Israël, on le sait, qui seront évidemment suivies de très près à la Maison Blanche, avec un Donald Trump qui était à Las Vegas ce week-end pour la réunion de la coalition des Juifs républicains et qui a expliqué notamment sur quoi reposait la diplomatie américaine au Proche-Orient. Et vous allez nous dire que c'est assez fascinant.
Oui, alors Trump est donc à Vegas devant cette coalition des Juifs du Parti républicain. Il leur explique comment il a pris la décision de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. C'est assez fascinant. Pourquoi ? Parce qu'en 21 secondes, tenez-vous bien, Trump décrit parfaitement comment il pense sa diplomatie, comment il l'organise, quasiment sans consulter personne. Là, par exemple, il raconte donc dans cette séquence, dans cette conversation, il raconte cette conversation qu'il a eue il y a quelques jours avec David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem.
Alors je dis à David, qu'est-ce que tu dirais si je reconnaissais la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan ? Et lui, il a répondu, vous feriez vraiment ça, monsieur ? J'ai dit oui, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, écrivons-le quelque part. On prend une décision rapidement.
Voilà, ça veut dire que l'ambassadeur américain en Israël n'était même pas au courant du projet du président américain. Dans le même discours, Trump rappelle que son gendre, Jared Kushner, met la dernière main à un plan de paix pour le Proche-Orient. Et commentaire du président devant cette foule, si Jared n'y arrive pas, alors personne n'y arrivera.
Alors, j'ai dit à David, c'est quand même étonnant. Grégory, la présidentielle de 2020 est dans un peu plus de 18 mois. Vous allez me donner les jours exacts immédiatement.
575.
Voilà, je sais que vous avez un compteur sur votre bureau maintenant. Pour l'instant, 17 prétendants à l'investiture démocrate, donc, et 17 first lady ou first gentlemen, les épouses et les époux des candidats qu'on commence à examiner à la loupe.
Oui, c'est vrai. Et celui qui attire la lumière en ce moment s'appelle Chasten Buttigieg, 29 ans. Il est le mari du candidat démocrate Pete Buttigieg, dont on a déjà parlé ici, Fabienne. Mm-hmm. Vous savez, Mayor Pete, le plus jeune des candidats, 37 ans, le maire de South Bend, Indiana, vétéran de la guerre en Afghanistan et donc marié à un homme. Il parle 8 langues, profil extrêmement atypique, évidemment. Mais Buttigieg fait un très bon début de campagne. Chacune de ses apparitions est très remarquée, hier encore dans l'émission Meet the Press. Et donc, son arme secrète et peut-être aussi son époux, Chasten, qui fait campagne à ses côtés, très actif sur les réseaux sociaux, très drôle, je vous conseille Fabienne de suivre son compte Twitter, très engagé aussi politiquement, et Chasten Buttigieg aspire donc à devenir peut-être un jour le premier first gentleman à la Maison Blanche.
Une dernière question Grégory peut-être, pardon, est-ce que vous avez un costume Grégory ?
Oui, un smoking, j'en ai loué un pour le traditionnel dîner des correspondants de la Maison Blanche qui a lieu fin avril, sauf que pour la troisième année consécutive, eh bien Donald Trump a annoncé qu'il allait boycotter ce rendez-vous. C'est trop ennuyeux, a dit le président américain, qui au même moment tiendra un meeting avec ses supporters. Et en vérité, c'est assez malin de la part de Trump de renvoyer les journalistes qu'il déteste à leur petit monde de Washington pendant que lui sera sur le terrain quelque part en Amérique. Mais on sait qu'Obama et ses prédécesseurs...
Ouais, oui, il y a un dîner quand même, Grégory, c'est ça l'idée en fait.
Il y a quand même un dîner.
Une œuvre de charité.
Exactement. Il y a quand même un dîner. Obama venait, ses prédécesseurs venaient. Trump ne viendra pas. Et moi, je me retrouve donc avec un smoking et un nœud papillon sur les bras.
Eh ben, écoutez, envoyez-nous au moins des photos. Et vous savez pourquoi j'ai eu du mal avec, pour vous reparler d'ailleurs, je cherchais avec Jean-Marc Four d'ailleurs le compte Twitter. Figurez-vous. Bon, moi, j'irai le chercher dans un instant. Allez, merci Grégory. À la semaine prochaine.
À bientôt.
Le 18-20. Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, alors que la mobilisation se poursuit en Algérie, un autre grand pays africain connaît en ce moment un processus assez similaire de contestation du pouvoir par la rue. C'est le Soudan en Afrique de l'Est, sauf que contrairement à l'Algérie, personne n'en parle et c'est votre monde à l'envers.
C'est comme en Algérie, c'est un moment exceptionnel porté par l'espoir de la liberté. Alors vous allez me dire, oh la jolie formule toute faite, sauf que c'est vraiment ça. Les images qui nous viennent de Khartoum, la capitale du Soudan, sont rares parce qu'il y a très peu de journalistes sur place. Elles racontent une mobilisation extraordinaire, peut-être sans précédent dans l'histoire du pays. Avant-hier soir, malgré la chaleur étouffante, il fait 45 degrés dans la journée à Khartoum en ce moment, malgré les risques de répression, les manifestants sont descendus dans la rue, d'abord par centaines, puis par milliers, puis par dizaines, peut-être même centaines de milliers. L'opération avait été minutieusement préparée dans la plus grande discrétion. Et depuis, ils occupent la zone située tout autour du ministère de la Défense, en fait parce qu'ils veulent obtenir le soutien de l'armée contre le pouvoir. La contestation a débuté fin décembre. Au départ, il s'agissait d'émeutes contre le triplement du prix du pain. La colère s'est propagée à toutes les villes, presque toutes les régions, pour protester en général contre l'inflation, 70%, qui touche aussi le riz, le sucre, le gaz, l'essence, etc. Dans ce Soudan qui est grand comme trois fois la France, un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Puis la contestation est devenue politique. Le slogan des manifestants est simple, paix, justice, liberté. Le pouvoir d'Omar el-Béchir, 75 ans, est directement visé.
Donc une sorte d'Algérie bis.
Oui, comme en Algérie, la révolution soudanaise attire la sympathie par sa maturité, son calme, sa spontanéité aussi. Les partis politiques sont aux abonnés absents. Le mouvement est davantage structuré par la société civile, les médecins en particulier, les enseignants et les journalistes aussi. Comme en Algérie, les femmes y jouent un rôle moteur et elles sont depuis des années victimes d'un pouvoir violent et rétrograde au Soudan. Comme en Algérie, la situation économique est mauvaise et c'est la conséquence de l'incompétence d'un pouvoir corrompu et affairiste. Vous en voulez encore? Comme en Algérie, il y a une vieille aspiration démocratique, mais le pays est tenu par un régime militarisé, en l'occurrence donc par un homme, Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans. Un homme par ailleurs poursuivi par la justice internationale pour crimes de guerre et génocide dans la région du Darfour. Enfin, comme en Algérie, l'armée hésite. Mais il y a une grosse différence. Au Soudan, il y a une armée dans l'armée. Les services de renseignement ultra-violents, les milices à la solde du pouvoir, ce sont eux qui bénéficient des subsides de l'État. 80% du budget de l'État, tenez-vous bien, investi dans la défense, 80%. Conséquence directe, le risque d'une répression violente et d'un carnage est beaucoup plus élevé qu'en Algérie. On compterait déjà au moins une soixantaine de morts. Il y aurait eu 2500 arrestations lors de la seule journée d'avant-hier.
Alors pourquoi personne n'en parle et pourquoi le soulèvement est aussi invisible?
Je vous le donne en mille, parce que cette révolution n'arrange personne. Sur le papier, c'est magnifique. On a compris, un peuple épris de liberté se soulève contre un dictateur, le tout dans un pays berceau de grandes civilisations comme celle de Méroé, le tout au carrefour géographique entre le monde arabe et l'Afrique noire. Tout est réuni sur le papier pour attirer l'attention sur le Soudan. Sauf que ce soulèvement est un souci pour tout un tas de gouvernements. D'abord chez les voisins, le président égyptien Sisi, alors lui, veut surtout éviter une propagation de la révolte chez lui. L'Arabie Saoudite et les Émirats bénéficient de l'appui militaire du Soudan dans leur guerre au Yémen. Et si on regarde un peu plus loin, la Chine a des investissements pétroliers dans le pays, la Russie a des investissements miniers et les États-Unis voient dans Omar el-Béchir un allié dans la lutte antiterroriste. Reste l'Europe, mais elle ne dit pas grand-chose non plus sur ce soulèvement massif parce que l'Europe, elle, elle reste animée par une obsession persistante, on la connaît, le risque d'une nouvelle vague migratoire. Et elle a d'ailleurs signé un protocole il y a 4 ans, le processus de Khartoum, objectif assumé que le Soudan soit une zone tampon pour l'immigration. Donc la liberté attendra, puisque personne n'a vraiment intérêt à la chute de Béchir et ça explique en grande partie la grande discrétion de la bien mal nommée communauté internationale.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, on continue dans le 18-20 avec le journal de Pierre Veil, juste après ça.